Vous écoutez Résonance sur les ondes d'Univers 99.9. Pour cette édition, nous allons à Rochefort-en-Terre, plus précisément au Naya Museum, le musée d'art fantastique de Rochefort-en-Terre, rencontrer Manu Van Hache, qui est artiste peintre et dessinatrice, et aussi gestionnaire et directrice artistique de ce lieu, et qui va nous le présenter. Un entretien d'Eloan David. Vous écoutez Résonance sur les ondes d'Univers 99.9.
Donc je suis aujourd'hui avec Emmanuel au Naya Museum à Rochefort-en-Terre. Alors donc c'est un musée que vous avez repris il y a quoi, 5 ans, quelque chose comme ça?
C'est la quatrième année en fait, hein. Donc ça fait 3 ans, on a eu 3 saisons pleines et là on commence la quatrième. Hein.
Donc vous le présentez comme un musée de l'imaginaire et du fantastique. D'ailleurs en ce moment il y a une exposition sur le rêve. Et est-ce que vous pourriez justement nous en dire un peu plus sur ce musée et comment vous en êtes arrivé à choisir cette thématique-là?
En fait, on est deux artistes à l'origine du projet. Pourquoi cette thématique? En fait, on est deux artistes qui travaillons dans cet univers, dans l'imaginaire, dans le fantastique. On trouve que c'est un moyen d'expression qui permet de parler du monde qui nous entoure, quel qu'il soit, d'aborder des sujets totalement différents. Pour questionner notre monde, que ce soit au niveau politique, au niveau scientifique, au niveau spirituel, tout en n'étant pas complètement prendre les choses de front, en fait. Donc on peut travailler le visuel, on peut travailler même l'ultra-réalisme, mais avec cette dimension légèrement fantastique, étrange. Ça nous permet aussi d'emmener les gens dans un endroit où ils n'ont pas l'habitude d'aller, donc vraiment en dehors de leur zone de confort, de perturber et donc de faire en sorte que les gens finissent par se poser des questions et réfléchir à leur place, hein. Où ils sont, pourquoi, quand, comment.
Il y a pas mal d'œuvres d'artistes contemporains, donc j'avais cru comprendre qu'il y avait cette volonté de pouvoir mettre quelques œuvres, un peu comme dans un musée classique, de mettre des œuvres d'artistes décédés ou plus anciens, mais aussi mettre beaucoup en avant des artistes contemporains et d'avoir ce mélange un peu entre musée et galerie. Comment dire un peu plus aussi sur cette volonté justement de mélanger ces deux aspects-là?
Alors l'aspect contemporain et ancien, là c'était vraiment pour confronter techniquement l'histoire de l'art à ce qui se fait actuellement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'artistes qui sont présents dans le musée, qui travaillent des techniques par exemple de peinture à l'huile qui sont anciennes, ou même la sculpture ou la céramique, mais des techniques qui sont ancestrales et qui se sont transmises, qui continuent à se transmettre. Et donc le fait de le confronter à des peintures un peu plus anciennes, qui souvent font partie de la culture populaire, de notre histoire, hein, ou de l'histoire de Rochefort. Hein. Ça permet de montrer aux gens que ces techniques-là sont toujours d'actualité, qu'elles sont toujours utilisées, mais avec des sujets beaucoup plus actuels. On avait la volonté de mettre en avant vraiment des artistes contemporains, des artistes vivants, et de défendre ces artistes-là. Et le fait que ce soit un musée-galerie, ça permet à la fois de montrer des œuvres que les artistes ne montreraient pas dans une galerie, puisqu'elles ne sont pas en vente. Hein. Donc c'est des artistes qui nous prêtent leurs œuvres. On a une partie des œuvres qui nous appartient, et on a une partie qui est en vente, et donc du coup ça permet de voir des œuvres qu'on n'aurait pas l'habitude de voir.
Justement, comment ça se gère à ce niveau-là, comme différemment d'un musée, où vous avez forcément un grand fond et où ça change beaucoup? Est-ce que là, du coup, vous avez plutôt quelque chose un peu en flux tendu, où du coup ça tourne assez souvent avec différents artistes, où vous avez vraiment une assez grande collection et ça, au final ça bouge plutôt assez doucement pour les différentes expositions?
En fait, ça bouge assez doucement, puisque ce qui bouge essentiellement, c'est surtout les œuvres qui sont en vente, en fait. Hein. Puisque ça permet d'avoir un roulement. Les artistes choisissent ce qu'ils ont envie de présenter, ce qu'ils ont de disponible aussi. Et puis, quant au fond, on a un tout petit fond, une partie qui sont nos propres œuvres et quelques œuvres d'autres artistes. Mais là, c'est un tout petit fond. Et après, les artistes ont parfois des œuvres qui ne sont pas du tout en vente. Et là, c'est pareil, c'est aussi un petit fond, puisqu'en général, les artistes vivent quand même de leur art, donc ils ont besoin de vendre.
Et du coup, comment ça se crée, ce réseau entre artistes? C'est des gens que vous avez contactés, qui vous contactent ou...
En fait, on avait déjà un réseau en tant qu'artiste, vu qu'on avait exposé avec eux. Donc, on avait déjà un grand réseau, puisque ça fait plus de 15 ans maintenant qu'on se balade dans l'Europe et en France pour exposer. Et puis, depuis qu'on a ouvert le musée, on contacte des artistes et voilà, et on augmente le réseau comme ça. Mais c'est vrai qu'on avait un réseau de base pour démarrer le musée.
Et du coup, là, je vais revenir un peu sur... Vous avez parlé notamment tout à l'heure des aspects techniques, de confronter les différentes techniques. Et c'est vrai qu'à travers le musée, il y a vraiment cette sensation-là d'une exploration ouais, vraiment technique, justement. Et je me demandais, du coup, si, quand vous le disiez, c'est pas un rapport, justement, entre exploration de l'imaginaire et finalement une exploration technique aussi avec les technologies qui avancent. Là, notamment, il y a des fractales. Enfin, il y a des choses comme ça qui n'étaient pas permises avant. Du coup, justement, je me demande si, pour vous, il y a un lien aussi entre, justement, cette... exploration de l'imaginaire et exploration technique aussi.
Oui, parce que l'imaginaire va venir après la technique, puisque quand on est artiste, on commence d'abord par apprendre. Et une fois qu'on maîtrise la technique, on est beaucoup plus libre. Mais effectivement, on passe par toute une période où il faut savoir faire. Après, pourquoi explorer des œuvres comme les fractales ou même les nouvelles technologies ? Parce que ce sont des moyens d'expression qui vont être totalement différents et qui vont forcément donner des œuvres différentes. Puisque on est l'œuvre, même si on a un bon imaginaire, l'œuvre sera forcément liée à la technique qu'on utilise. Un sculpteur ou un peintre ne fera pas la même chose, n'utilisera pas les mêmes facettes de l'imaginaire, parce que sa technique le guidera quand même quelque part.
Et du coup, là, je vais revenir un peu plus sur l'histoire locale. Du coup, c'était un ancien musée du patrimoine, je crois, c'est ça ? Et donc, il s'appelle Naya, qui vient de la sorcière Naya. Du coup, est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur... D'abord cette histoire de la sorcière Naya, et puis après sur aussi cette reprise du coup d'un musée du patrimoine, comment ça a pu se faire ?
Alors le fait qu'on ait repris un musée du patrimoine, c'est un musée qui avait fermé en 2011, parce que tout le site a été racheté par la commune, et ce musée était fermé, le château aussi. Et on a rencontré le maire suite à une exposition qu'on a fait à Rochefort-en-Terre, et donc le maire et tout le conseil municipal nous a suivis quand on a fait la proposition du musée, de la reprise et avec cette thématique. Donc on a été beaucoup soutenus par la mairie. Donc ça, c'est pour l'aspect vraiment de la reprise du patrimoine. Les locaux étaient déjà existants et on aimait justement aussi ce lien entre le patrimoine local et l'art contemporain. Et c'est ce qui nous a amené à choisir aussi le nom de Naya. Naya est un personnage de Rochefort-en-Terre. C'est un personnage mystérieux, particulier, puisque c'était une sorcière guérisseuse. Qui disait la bonne aventure, voilà, à qui on prêtait beaucoup de dons différents. Et c'est un artiste écrivain qui avait rencontré Naya en fin du 19e, début 20e, et qui avait écrit un article sur elle. Et c'est comme ça qu'on a des traces d'elle. On a des photos et des écrits sur sa rencontre avec Naya. Donc ça nous permettait aussi de rendre hommage à un personnage populaire local qui avait cette dimension fantastique, mystérieuse, étrange.
Et du coup, justement... J'avais vu sur votre site ce mouvement du nayatémisme. Est-ce que vous pourriez m'en dire justement un peu plus là-dessus ?
Alors, le mouvement du nayatémisme, en fait, ça vient d'un petit texte qu'un des artistes nous a écrit, puisque, effectivement, on présente des œuvres qui ont un grand aspect, un grand savoir-faire technique. C'est vrai que pour nous, ça a de l'importance. Pour nous, ça a beaucoup d'importance de défendre ces savoir-faire qui continuent à être transmis. Et donc, du coup, il a imaginé un futur qui parlerait d'un début, d'un mouvement artistique qui défend justement l'art du savoir-faire et la manière dont on montre les œuvres et dont on les vend. Et donc ce petit texte vient voilà, de cet artiste Hervé Coura. C'était un clin d'œil voilà, un petit peu à ce contre-courant, cette contre-culture de remontrer aux gens des savoir-faire.
C'est vrai que c'est ce qu'il dit, c'est faire l'art et le faire voir. J'aimais bien cette ouais. formule. Et c'est vrai que c'est assez marrant dans le... Du coup, ce côté que ce soit dans un vieux bâtiment aussi, il y a ce côté très... très baroque finalement dans le musée et même avec l'éclairage tout ça de la sorte de mise en scène aussi des pièces du coup je me demande comment est-ce que aussi vous concevez le fait de justement de créer une exposition, créer un musée, comment ça se passe
En fait, l'avantage de créer un musée par rapport à une galerie seule, le fait qu'on ait mixé les deux, c'est que ça permet de créer une mise en scène. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres, on sait qu'elles seront là pendant toute la saison, elles ne bougeront pas. Il n'y a que les œuvres en vente qui sont susceptibles de bouger. Et donc, du coup, ça nous permet, nous, on va dire, de créer encore une œuvre avec toutes les œuvres, c'est-à-dire de créer vraiment une atmosphère et de plonger les gens dans un univers, leur proposer un parcours et vraiment une visite particulière. Une galerie simple ne nous permettrait pas ce genre de choses puisqu'elle va demander peut-être un petit peu plus un petit peu moins d'identité pour laisser la place totale à l'œuvre. Nous, on se permet justement de pouvoir créer une atmosphère et donc de plonger les gens dans un univers total. Il y a de la musique dans le musée, par exemple, ce qui est pour nous très important parce que ça permet d'extraire les gens de l'extérieur et donc du réel.
Et c'est vrai que du coup, là, on entend un peu les machines. Et c'est vrai que ça crée aussi une atmosphère quand on est dans certaines salles, notamment aussi dans la salle en bas où il y a de la musique et des machines. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant. Vous me disiez justement la possibilité de venir et d'ausculter avec un stéthoscope.
Bah, c'est vrai que les machines ont un son particulier. Ce sont des machines qui bougent, qui sont en mouvement. Et donc, du coup, le fait j'ai un stéthoscope, effectivement, à l'entrée du musée. Et le fait de se balader et de poser simplement le stéthoscope sur la structure en acier, la résonance des mouvements et du moteur crée un bruit qui ressemble à un grognement ou voilà, avec cette caisse de résonance métallique. Ce sont des sculptures en acier. Et donc, du coup, ça donne vie, en fait, réellement à ces sculptures qui sont en mouvement. C'est un jeune musée et c'est vrai que c'est ce mix entre musée et galerie était pour nous très important. C'est vraiment, pour en revenir au naïatisme, un concept global en fait, hein, de présentation, puisque quand on crée la scénographie, on tient compte du lieu qui est aussi très chargé historiquement, puisqu'on est quand même dans des parties médiévales du château, notamment la salle souterraine. Donc c'est des salles qui datent du 13e ou 14e siècle. On a cette partie-ci qui est en partie médiévale et qui a été restaurée au début 20e par un peintre américain qui lui avait construit le château à Rochefort-en-Terre. Et donc du coup, toute cette, on va dire, ce lien avec le passé, le présent et le futur, puisque on explore aussi les technologies nouvelles. Voilà, ça permet de créer un concept total qui plonge les gens dans l'art d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
Du coup, justement, est-ce que ce serait du coup un concept qui serait aussi déclinable dans d'autres lieux? Enfin, qui serait possible de travailler, j'imagine, dans d'autres lieux en France où ça doit être aussi possible.
Oui, d'ailleurs, nous, on travaille avec d'autres structures justement pour créer sur certaines thématiques des expositions. Et quand c'est le cas, comme par exemple sur Rennes, on travaille beaucoup avec le Festival Court-Métrange, qui a cette thématique de l'étrange et du fantastique. Et ce qui est important quand on crée ces expositions, c'est de trouver un lieu, puisque l'exposition va s'articuler sur la thématique et sur le lieu. Donc du coup, ça permet vraiment de créer une mise en scène et donc une immersion pour le visiteur, en fait.
D'accord. Eh bien, merci.
Merci beaucoup.